Bonjour, merci David, merci au Saint-Esprit qui lit toujours bien les choses entre elles. Gardez la question que David vous a posée à l'esprit, parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit moment après pour entendre comment Dieu vous parle à vous. Et puis je pense que c'est quand même aussi bien lié avec ce que j'avais au cœur ce matin. Ça m'a fait très drôle ce matin, j'ai l'impression d'être retourné 20 ans en arrière. Depuis hier matin, mon ordinateur est hors service jusqu'à peut-être demain soir. Ouf, un papier, un stylo, c'était drôle, mais c'était super. Et puis, je ne sais pas pour... Je vous laisse aussi continuer de réfléchir à ce que vous allez partager. Moi, je sais que maintenant, j'ai aussi appris à reconnaître comment Dieu me parle à moi, c'est très personnel à chacun. Moi, Dieu me parle par infusion, toujours. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, à tout moment de ma vie, même des fois quand je dors, je me réveille, je me rappelle d'un truc, c'est comme ça s'infuse doucement et à un moment, comme tu le disais, avec la joie, c'est pas forcément de la joie, mais je sens que c'est là. Hein. J'en fais pas, je dis pas Dieu m'a dit ou comme ça, mais j'ai besoin de cette infusion-là dans ma vie régulièrement et puis j'ai appris à la reconnaître. Et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est cette image qui me parle parce que je bois beaucoup de thé. Et quand je mets mon thé dans la théière, si elle est transparente, j'en ai plusieurs, j'en ai toute une collection, mais pas autant que Virginia, mais quelques-unes. Et j'aime bien de temps en temps prendre la transparente pour ça parce que on voit pas, il y a pas de l'eau et puis d'un coup c'est du thé. C'est de l'eau, c'est un peu moins de l'eau, c'est un peu moins de l'eau et puis finalement c'est du thé. Selon le thé, en plus, ça change de couleur, bien sûr, etc. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Et puis, je ne sais pas si c'est pourtant, il fait très beau, hein, l'été. Et là, c'est magnifique, j'apprécie beaucoup. Mais quand même, on sait qu'on se dirige vers l'automne, et je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'ai déjà un tempérament assez mélancolique, ça ne se voit pas forcément, mais je suis profondément mélancolique. Et peut-être avec l'automne qui arrive... Je me suis aperçu que j'étais dans un état extrêmement mélancolique. Pas sans raison apparente, mais vous savez, ce sentiment d'être seul au milieu du monde. Parce qu'être seul, quand on est seul, c'est super, ça, j'aime ça, hein, faire exprès d'être seul. Mais quand vous êtes seul avec les gens autour, quoi. Et ça, c'est moins agréable, quoi. Et pour moi, ça fait partie des signaux d'alerte. Vous savez, comme si vous roulez dans votre voiture et quand les voyants s'allument, manque de l'huile, il manque de l'eau, il manque quelque chose. Malheureusement, sur les voitures, quand ça s'allume, en général, c'est pour vous dire, tu aurais dû mettre de l'huile. Le moteur est serré. Hein. Avec Dieu, c'est mieux quand même. Les voyants s'allument, surtout si on apprend à les entendre, avant pour nous dire, tu devrais mettre de l'huile. Et du coup, je méditais sur ces choses-là et je suis revenu à ces versets très connus de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, sur le thème de la foi. Je vais vous en lire quelques-uns. Du coup, je dois mettre des lunettes parce que j'ai pas pu imprimer mes notes en 25. Et je vous lis un ou deux versets. Hébreux 11, 1, c'est la traduction du semeur. « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. » C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. J'aime bien cette traduction. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On peut savoir beaucoup de choses sur Dieu, être sûr qu'elles sont vraies. Donc dans ce sens-là, on pourrait dire c'est la foi. Hein. Souvent on pense que la foi c'est savoir des choses sur Dieu et croire qu'elles sont vraies. Ça c'est pas la foi, c'est la connaissance sur Dieu. Et on peut connaître des choses sur Dieu et savoir qu'elles sont vraies, mais elles ne sont pas réelles pour moi dans le moment présent. Je sais que Dieu est la source de toute joie, je le crois, j'en suis convaincu. On ne pourrait pas me faire dire le contraire, hein, mais dans le moment présent, je ne suis pas rempli de joie. Hein. Je sais que Dieu prendra soin de moi ou de nous, je suis sûr de la fidélité de Dieu, ce n'est même pas une question. Je ne sais pas si sous la torture je dirais le contraire, probablement parce que je ne suis pas courageux, mais ça n'empêcherait pas que dans ma tête je penserais, je sais que c'est vrai, je n'ai pas le choix. Mais souvent, dans le moment présent, ce n'est pas vrai pour moi. Hein. Pourquoi ? Parce que je ne vis pas par la foi. Un peu plus loin dans le chapitre 11, voilà, j'ai déjà sauter mes notes, je ne suis plus dans l'ordre, ça ne fait rien. Il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ou sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et puis, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, dans l'Épître aux Romains aussi, hein, le juste vivra par la foi. Et puis nous, on a tellement dépouillé cette expression de son sens, hein, soit en la ramenant, comme je dis toujours, les gens qui vivent par la foi, c'est ceux qui vivent avec l'argent que gagnent ceux qui travaillent réellement. On appelle ça vivre par la foi. C'est triste. C'est pas vivre par la foi, ça c'est vivre de l'argent des autres, ce qui peut être bien. Paul le faisait des fois, la Bible dit que ça peut être bien. Mais ça n'a rien à voir avec vivre par la foi. Hein. Vivre par la foi, c'est jour après jour pouvoir s'approprier ce qu'on sait que Dieu a dit, a fait et qui est vrai, pour que ce soit réel pour moi dans ma vie. Hein. Vivre par la foi, comme selon une de mes images favorites que vous connaissez bien, c'est passer d'avoir rempli le frigo à cuisiner et manger. Hein. On ne peut pas cuisiner avec un frigo vide, c'est sûr, enfin, ou les placards vides, ou sans provision. Mais avoir les placards remplis, le frigo plein, tous les ingrédients, les meilleures casseroles, les plaques à induction au gaz, en cuivre, etc., ça fait pas que... Excusez-moi, Georges, pour le sujet, je réalise. Georges, t'es un long jeune. Et puis moi, je suis là. Je vais changer d'illustration rapidement. Hein. Mais ça fait pas qu'on mange. Hein. Et on a besoin... Mais remarque, tu comprends mieux comme ça, hein, je suis sûr. Hein. Ça a du sens pour toi. D'accord. Alors maintenant, je vous relis ce verset. Vraiment que je m'achète des vraies lunettes. La foi, c'est la façon de posséder ce qu'on espère. Vous voyez comme c'est important. Et c'est pour ça que on a besoin de passer de la voix de Dieu, la parole de Dieu, quand on parle du texte écrit dans la Bible, à Dieu qui nous parle à nous. Hein. Et pas forcément de façon émotionnelle, bizarre, où j'ai entendu Dieu qui m'a dit de faire ça ou ça. Mais il faut que ça devienne concret et réel pour nous, que ce soit quelque chose qui remplit notre âme. Pourquoi ? Ben, sinon... on va vivre sans la foi. On sera toujours des enfants de Dieu si on a donné notre vie à Christ un jour. Ça ne change rien. Hein. Si on meurt dans cet état-là, on va pareil avec lui. Ça ne change rien de ce côté-là. Mais c'est juste sur la qualité de notre vie, là, dans le moment présent, on est hors de la foi. Et alors, je ne sais pas comment ça se traduit pour vous, parce que comme l'a dit David, on est tous très différents. Pour moi, ça doit se traduire par une profonde mélancolie qui fait que je vais me retourner vers les choses du passé qui étaient quand, ou vers des choses que j'ai pas, ou que j'ai plus, ou que j'aimerais, et puis je vais pas tomber dans la dépression parce que c'est pas non plus mon tempérament, mais je vais être alourdi dans ma vie à un point où ça en devient douloureux. Hein. Et quand, normalement, si je fais les choses comme il faut, je dois pas arriver dans cet état-là. Parce que bien avant, par la foi, je remets les bonnes lunettes qui me permettent de voir la réalité. J'avais, à une époque, j'aimais pas les titres, maintenant j'ai changé, j'aime les titres, et que les imbéciles qui changent pas d'avis. Pour ce matin, j'avais pensé à ce titre-là pour moi quand j'y pensais, c'était « Foi, solitude et nostalgie ». C'est joli comme titre, ça me plaît bien. Hein « Foi, solitude et nostalgie ». J'aime quand je suis content de moi, ça me fait du bien. De temps en temps, hein, il faut, hein. Ma femme m'a appris ça, elle m'a dit, tu sais, si tu veux des compliments, fais-toi aller tout seul, ça sera plus simple. Alors, je le pratique régulièrement. Même si avec vous, c'est pas pareil parce que vous êtes gentil avec moi, mais vous m'en faites souvent, mais bon, voilà, je m'enfonce. Hein. Foi, solitude et nostalgie. Mais vous allez voir le lien, hein. C'est tiré de mon histoire, mais je pense que ça rejoint chacune de vos histoires, même si pour vous, ça se traduit autrement. Si je vis pas dans la foi, je me sens seul et je m'enfonce dans la nostalgie. Mais quand on lit cette histoire ce chapitre sur la foi, pardon, hein, après nous avoir dit qu'il est dit que la foi nous permet de posséder, donc de faire sien les choses qu'on espère. Quand on espère ici, c'est pas peut-être que, c'est les choses qu'on sait vraies mais qui sont pas à nous dans notre expérience. Hein. Le verset suivant dit ceci. Quelle horreur. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu, ok? Verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé. Ça, c'est joli aussi. par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Lorsque je commence par la foi à m'approprier les choses que j'espère, c'est exactement ce qui se passe, vous voyez, quand je regarde mes textes et mes notes, je vois rien, je vois des pattes de mouche. Hein. Je mets ça, il y a des mots que je comprends. C'est pas ça qui a changé, c'est ça qui a corrigé mes yeux, d'accord ? La foi ne fabrique rien. C'est pour ça que ces idées que si tu avais eu la foi, il aurait été guéri, si tu avais eu la foi, ça aurait été mieux, si tu avais eu la foi, tu ne serais pas tombé malade, c'est stupide. C'est comme penser que si je mets mes lunettes, il va y avoir ce que j'ai envie qu'il soit écrit dans le texte. Vous savez ? C'est faux. Par contre, sans les lunettes, je veux pas voir, je peux pas voir ce qui est écrit dans le texte. Donc la foi, elle fabrique rien. Dieu fait ce qu'il fait, il a dit ce qu'il a dit, il va pas changer d'avis, il sait ce qu'il va faire, on va pas l'influencer tout d'un coup parce qu'on a la foi, il avait décidé qu'il se passe ça, il va se passer autrement, hein. Il sait toutes choses. Par contre, par la foi, je comprends ce qu'il a écrit, ce qu'il dit, ce qu'il me parle. C'est une autre façon de dire que la foi permet d'entendre la voix de Dieu, peu importe comment il nous parle. Et là, il est dit, par la foi, nous comprenons que le monde visible est tiré de l'invisible, à l'envers de ce que nous, on pense en général. Hein. Il est calqué dessus. Et donc, lorsque je vis par la foi, je recommence à voir les choses correctement, et du coup, les éléments de ma vie se remettent à leur place. Si on continue, ensuite dans ce chapitre, donc on a plusieurs versets qui nous parlent d'exemples de gens qui ont vécu par la foi. Il y a Abel, il y a Enoch. Enoch, j'aime beaucoup. Ça me plairait d'avoir la même histoire que lui. C'est vrai, les gens, souvent, j'aimerais être comme David, comme Nal. Moi, j'aimerais être comme Enoch. Marcher avec lui, puis un jour, vous ne voyez plus. Il est parti à la maison. Ça, on était plus près de la sienne que de la mienne. Et puis, Noé, bien sûr. Mais, verset 6. « Sans la foi, il est impossible de l'être agréable, je l'ai mentionné, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Il faut bien comprendre ce verset, mais « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, ça ne veut pas dire que Dieu se cache et puis si on se met à le chercher, on va recevoir un bonbon. Hein. Mais ça veut dire qu'en fait, ce principe qui est en train d'être développé de la foi, il y a quelque chose pour nous derrière. Dieu récompense ceux qui le cachent. Ce n'est pas une récompense arbitraire parce qu'on a fait des efforts. C'est la récompense de lorsque je suis là en train de voir ce texte et je suis frustré parce qu'il ne me dit rien, parce que c'est des pattes de mouche et je comprends bien que ça veut dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et puis je mets mes lunettes. Ah, chaque mot veut dire quelque chose. Je suis récompensé. Vous comprenez ? Je comprends. Ça a du sens. C'est ce que fait la foi. Quand je m'approche de Dieu, ça ne doit pas être un truc théorique, genre, alors je m'approche de Dieu, Dieu est content, puis j'aurai une récompense au ciel, ou alors Dieu me donne une récompense, je ne sais pas quel genre de récompense, non. La récompense, c'est que je vois, je comprends. Ça prend du sens. Ce qui dans ma vie n'avait pas de sens, prend du sens. Ce qui faisait que je me sentais vide, mal, pas bien, solitaire, déprimé, ou au contraire, suractif, surexcité, je sais pas, peu importe qui vous êtes, ça va être différent. Hein. Je comprends pourquoi ça va pas, et qu'est-ce qu'il y a, et comment ça peut être, et les choses se mettre en place. C'est ça la récompense quand on s'approche de Dieu. C'est que je comprends pourquoi j'ai été créé, je comprends, malgré le péché, quel est le plan de Dieu, d'où je viens, où je vais, et tout prend un sens comme ça. Et si on continue dans ce chapitre, je ne veux pas être long parce que j'aimerais bien vous entendre après. Hein, il est dit au verset 13. Parce qu'après on a de nouveau une série de gens qui sont cités en exemple, c'est super intéressant, mais on ne va pas le voir ce matin. Verset 13, après avoir parlé de Abraham, Jacob, Sarah, etc. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Déjà, je ne sais pas pour vous, mais c'est bizarre parce que les gens qui sont cités là, ils ont plus ou moins obtenu ce qui leur avait été promis. Sarah, elle a eu un fils, Jacob, il a eu sa tribu qui a commencé. Alors Moïse, c'est vrai qu'il a vu de loin la terre promise, mais quand même, il a vu plein de choses concrètes. Beaucoup d'entre nous, on se contenterait de voir ce que Moïse a vu. Hein. Mais il est dit là, clairement, C'est dans la foi que ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Et moi, ça m'a interpellé, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai tellement souvent l'impression que malgré tout ce que je peux vivre avec Dieu, qui est super, je vis avec vous, j'apprécie beaucoup, etc. Mais c'est pas ça. Il manque encore des choses. C'est pas comme... Je sais pas. Et je parle pas dans le monde visible. Hein. Ça me va très bien dans le monde visible. À l'intérieur, c'est pas encore ça. Hein. Et ces gens-là, qui étaient des héros de la foi, qui sont cités là, qui ont fait, qui ont vécu des choses, genre j'ouvre la mer, je ressuscite des morts, j'ai 100 ans et je tombe enceinte. Bon, c'est pas un miracle que tout le monde apprécierait, mais dans le cas, elle a apprécié. Hein. D'accord. Donc, ils ont vécu ces choses extraordinaires, mais c'est dit clairement, ils sont morts sans avoir reçu ce qu'ils attendaient. Hein. Alors, on continue notre verset, qui est magnifique. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ah, quand même. Ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Pourtant, vous le savez, j'ai déménagé souvent, hein, plus de 30 fois, dans plus de 5 pays différents, non pas plus de 5, mais dans 5, etc. Mais... j'oublie très vite que je suis voyageur et étranger, même en vivant dans un pays étranger. Je m'accroche avec les ongles, avec tout ce que j'ai sur terre. J'aimerais. Hein. Et puis, c'est pas, d'une certaine façon, c'est pas pour rien qu'on voit, on vit dans une culture où l'idéal, c'est d'être jeune. Hein. Il faudrait pas vieillir, il faudrait toujours être jeune, hein, et puis pas mourir, et puis rester toujours jeune. Ce qui est stupide parce que c'est irréaliste, c'est même pas la question est-ce que c'est bien ou pas, mais c'est pas possible. Hein. Alors on fait semblant, mais ça ressemble à rien. C'est assez lamentable, surtout pas faire semblant. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a cette incompréhension, cette méconnaissance, on est étranger et voyageur. Et si j'oublie ça et que je veux vivre ma vie comme étant un résident éternel de la terre, ce qui, si on y réfléchit, ça serait l'horreur. Ça s'appelle presque l'enfer. Mais en même temps, on aimerait. C'est bizarre, hein, on est comme ça. Ils l'ont vu saluer de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre clairement qu'ils recherchent une patrie. Voilà. Est-ce que je cherche une patrie ? Ben pour moi, c'est clair, quand j'arrête de chercher cette patrie céleste, alors à un moment, je fonctionne en roue libre, parce qu'on a tous une certaine inertie, et puis au bout d'un moment, je deviens nostalgique, mélancolique, abattu, et je me tourne vers derrière. Mon adolescence, quand j'étais jeune, mince, avait des longs cheveux qui flottaient au vent, etc. Et puis, alors bien sûr, je sais que ça ne reviendra pas, mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce qui était en moi, ce qui me remplissait de joie, j'aimerais, mais en même temps, le temps passe, et puis je vois que je vieillis, et puis je vois les gens devant moi qui arrivent au bout et qui disparaissent, et puis derrière, ceux qui poussent, et puis ils poussent, c'est pas, on va y arriver. Mais on s'accroche à ça, et puis on a beau s'y accrocher, alors qu'est-ce qu'on fait ? Soit on devient de plus en plus mélancolique et déprimé, soit on décide, il faut oublier. Hein ? Alors là, on a chacun nos méthodes. Moi, dans ces périodes-là, je passe de 3 livres par semaine à 5 livres par semaine pour oublier. Hein, c'est comme l'alcool, c'est comme le reste, ça fait moins mal au foie, mais c'est pareil. Oublier, que je regarde vers derrière et que j'aimerais m'accrocher, mais que ça va passer. Hein. Alors bien sûr, c'est un peu message de vieux ce matin, mais tant pis, les jeunes, ils comprennent pas de quoi je parle. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Et on est là, poussez pas. Hein ? Mais c'est bien de l'apprendre jeune, parce que ça commence déjà. En effet, ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Waouh ! C'est fort, ça. Abraham aurait pu retourner en Chaldée, là-bas où il y avait l'eau chaude, l'eau courante, le machin, des bibliothèques, au lieu de vivre comme un sauvage à puer la chèvre dehors, là, à se promener, jamais être installé, monter, démonter la tente. Il venait d'une culture qui était super développée. Ils avaient l'eau courante, ils avaient des toilettes presque aussi bien que chez nous, ils avaient des maisons solides, ils avaient des bibliothèques, il y avait de la culture, il y avait des musiciens. Et le gars, il a passé toute sa vie dans le désert. Transpirer avec des chameaux, avec des chèvres, à se battre à l'épée pour gagner un morceau de terrain qui ressemblait à rien, pour finalement, à la fin de sa vie, avoir rien. Et pourtant, le texte nous dit, s'il avait voulu, il aurait pu retourner en arrière. Mais en fait, ce qu'il voulait, ça se trouvait pas ici, mais il voulait quand même le chercher, et il a continué. Et c'est assez incroyable, j'avais pas fait attention jusqu'à ce matin, que la seule chose de la terre promise que Abraham a eue, c'est un peu rigolo, mais c'est la grotte qu'il a achetée pour enterrer sa première femme. Parce qu'elle était en terre promise. Hein. Et après, il est reparti voyager. Quoi. C'était, ouais, bon, c'est... Je sais pas, ça veut rien dire de spécial, mais ça m'a fait bizarre hein, de voir ça. Mais il aurait pu y retourner. Et puis c'est vrai que je me dis, ben ouais, on peut s'accrocher à la vie sur Terre. Ben, je dis pas, je parle pas d'être suicidaire, mais dans le sens vouloir retourner en arrière. Mais le texte dit, en fait, c'est une meilleure pratique qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il leur a préparé une cité. Là, je commençais d'aller mieux, là, quand je suis arrivé là. C'est qu'en fait, toute la nostalgie en moi qui peut facilement se tourner vers le passé, elle n'est pas mauvaise. Elle est même utile. Elle doit juste être tournée dans la bonne direction. En fait, quand je ne suis pas bien, ce n'est pas parce que je ne suis pas nostalgique, c'est que je ne suis pas nostalgique du futur. En tant que croyant, on doit être nostalgique de notre futur, sans renier notre passé. Sans, il est beau, on l'aime, on le garde avec les erreurs, avec les choses difficiles. Hein. Il fait partie de nous pour toujours. Mais notre nostalgie, elle doit être tournée vers cette cité. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, hein, mais vers ces choses que Dieu a préparées. Et puis, du coup, quand on est nostalgique vers le passé, parce que le passé, on ne se rappelle que ce qui est bien, mais quand on l'a vécu que c'était du présent, ce n'était pas si facile que ça non plus. Hein. Et tout ce qui nous a manqué dans le présent passé, vous me suivez, c'est un peu compliqué, ça crée une nostalgie pour le futur parce que là, enfin, ça sera complètement comblé. En d'autres mots, on va toujours vivre avec cette dose d'insatisfaction ou de nostalgie du futur en nous, mais c'est ce qui fait qu'on se bouge. C'est ce qui fait que tous les matins ou toutes les semaines ou régulièrement, on se dit, bon, ben, ici, il n'y a plus d'herbe, plus rien à manger pour les chameaux, pour les moutons. Allez, remplis la tente et... Et pour ceux qui ont déménagé souvent, vous savez ce que c'est à chaque fois. On vide tout, on plie tout, on jette plein de choses, on empaquette tout, on met tout. Moi, j'ai vécu presque 15 ans où notre maison, on disait c'était notre bus et notre remorque, parce qu'on ne savait pas où était la maison entre les endroits, mais le bus et la remorque, c'était chez nous, quoi, en fait. Hein. Et puis même pour les enfants, ils disaient « Allez, on va à la maison !» Les gens, ils ouvraient la porte du bus, ils montaient se coucher dedans. Parce que les autres endroits, c'était des étapes. Hein. Il y avait une étape dans le sud de la France, une étape en Suisse, dans la vallée, oui, bien sûr. Une étape à Budapest, une étape à Brasov. Et puis... Mais la vraie maison, c'était la voiture et la remorque. Hein. Et en fait, en tant que chrétien, on doit vivre comme ça. On a des endroits, hein, on vient se poser. Et puis, il y a des oasis. On vient le dimanche matin chercher de l'eau, se faire du bien, s'encourager. Moi, quand j'étais assis là ce matin, je vous entendais chanter. Tout. Oh, ça fait du bien. Ça, je sais que demain je serai peut-être autant nostalgique et seul, mais ce matin je ne l'étais pas. Ça fait du bien. J'étais rempli, je me sentais porté. C'était. Et on a besoin de ça. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être là tout le temps tous avec moi, non. J'aimerais des fois, mais c'est mon idéal, mais c'est pas possible sur Terre, hein. Non. Vous me supporteriez pas d'abord. Et moi non plus au bout d'un moment, c'est sûr, hein. Mais. Mais on a besoin de ces moments-là, et puis on doit quand même savoir que quand on remonte la tente, on va la démonter. Et puis on continue. Alors, foi, solitude, nostalgie. Nostalgie, oui, mais plus tournée vers oh, ce que j'aurais pu faire, ce que j'avais, ce que j'ai pu, ce que j'aurais pu avoir. Bah, toute cette nostalgie-là, on la prend et par la foi... On s'approprie la présence de Dieu, on écoute sa voix, et puis on la transfère de l'autre côté, dans l'autre direction. Et là, on se retrouve dans une chose pour laquelle Paul était un champion, hein, quand il dit « Je cours, j'ai pas saisi le but, mais j'ai été saisi par Jésus-Christ, et je cours. » La course, c'est un déséquilibre vers l'avant. toujours. Ce n'est pas la marche. Marcher, on est stable, on a toujours le... enfin, il y a un moment où les pieds se croisent par terre. La course, il n'y a qu'un pied en même temps, et puis on est déséquilibré, et on ne tombe pas parce qu'on met l'autre pied et qu'on accélère un petit peu. Bon, on ne peut pas accélérer toujours, parce qu'à un moment, ça ne marche plus. Mais on continue. Hein. Et on est appelé à courir vers Christ, comme ça, dans ce déséquilibre vers l'avant. Cette nostalgie du futur, de cette patrie que Dieu nous a choisie, et puis en sachant que je suis libre de retourner, enfin, pas vraiment, mais d'une certaine façon, ou en tout cas d'essayer de m'installer, de transformer ma tente en maison. Hein. Et si on remplaçait les piquets par des piliers, et puis on coulerait les fondations, et puis on mettrait des tuiles dessus, mais de toute façon, le temps passe. Hein. Alors je préfère démonter, et puis regarder vers devant, et puis aller de l'avant. Seigneur, on te remercie parce que tu es celui qui parle à nos cœurs. Tu es celui qui sait infuser ta présence en nous et tu sais nous faire du bien, Seigneur. Mais tu veux aussi nous attirer à toi, nous attirer vers devant, vers tout ce que tu as prévu pour nous. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, tu as tracé un chemin pour nous et tu te tiens à la fois sur le chemin avec nous et puis aussi au bout du chemin pour nous appeler. Te demandons que tu nous donnes la force, le courage, l'intelligence d'aller de l'avant avec toi, de nous tourner vers toi, pour recevoir de toi, pour que notre connaissance de toi se transforme en nourriture spirituelle, pour que nous puissions vivre par la foi, Seigneur. Alors fais ce travail dans nos vies et puis merci pour ton Église, pour ton corps, pour ces oasis, pour ces moments de réconfort, et puis pour surtout pour tout ce que tu fais en nous, Seigneur. Amen.